Oui, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire que je... Donc ici, je pourrais parfaitement intervenir de la salle. Interpellé, non, pas spécialement. Réfléchi, oui. Non, je pense que pour nous, d'abord, on est concerné par plusieurs éléments. Le premier élément, en tant que médecin généraliste, c'est très certainement le fait que on a parfaitement conscience que dans notre activité quotidienne, la Sécu, dans tout ce qu'elle a apporté, a solvabilisé l'ensemble du corps social à la dispensation de soins. Et que ça, on est assis là-dessus, et profondément là-dessus, et depuis maintenant des années. Et que si ça, ça disparaissait sous une forme ou sous une autre, je pense que une bonne partie de notre exercice risquerait de se modifier profondément. Je rattache à ça en particulier l'introduction des assurances privées d'une façon ou d'une autre, soit simplement en complément de la Sécu, soit en la gérant, un peu comme certaines mutuelles gèrent actuellement la Sécu et font la complément ensuite. Ces assurances privées pourraient parfaitement, à un moment donné, puisque c'est l'expérience qu'on en a, en particulier aux États-Unis, dicter, tôt ou tard, nous dicter, tôt ou tard, notre façon de pratiquer et nous sanctionner si jamais nous avions, à un moment ou à un autre, la volonté de continuer à travailler autrement qu'ils le souhaitent. Donc ça, je pense que c'est un des soucis qu'on a, nous, actuellement, en ce qui concerne la médecine de base, qui est la médecine générale, c'est-à-dire celle auquel ont accès toute la population au quotidien. C'est ce souci que la couverture sociale doit permettre qu'on continue à soigner tous les gens de la même façon et avec le même abord. Je voudrais aussi vous faire part, nous, de notre souci d'un risque du secteur 2 généralisé. Vous appeliez ça tout à l'heure sous un autre terme, mais je crois ce qui est plus réel et peut-être plus risqué dans l'immédiat, c'est et qui risquerait de rencontrer un écho parmi l'ensemble des médecins qui sont insatisfaits pour tout un tas de raisons des modes de rémunération qu'ils peuvent avoir, c'est justement parce que ça risque d'avoir un écho parmi l'ensemble de nos confrères, c'est cette notion de secteur 2 généralisé avec la possibilité de pratiquer les prix qu'on veut, soi-disant, en système totalement concurrentiel. Moi, j'attire l'attention de mes collègues régulièrement ces derniers temps que le système concurrentiel, il peut être à la hausse, effectivement, dans une situation de démographie médicale réduite. C'est peut-être ce qui risque de se produire. Mais ça n'est pas dit. À un moment donné, on peut aussi se voir concurrentiel à la baisse. Et que ça, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'un certain nombre de nos confrères souhaiteraient. Mais en ce qui concerne le secteur 2 généralisé, je pense que ça risque d'être une des premières mesures, à mon avis, qui serait tout à fait proposée et avancée. Je crois que ça, c'est quelque chose dont il faut mesurer toute la perversité, surtout qu'un certain nombre de mutuelles n'ont pas toujours été très claires là-dessus, en proposant des couvertures complémentaires à tout craint sur ce secteur 2. Petite interrogation. Hein? Dernier élément, je voudrais insister sur la place la place de la médecine générale dans la prévention. On l'a vu ces derniers temps avec cette histoire du non-remboursement des certificats médicaux sportifs. Vous avez vu ça dans la presse ces derniers temps. C'est vrai que tout cela n'ont pas toujours été fait dans d'excellentes conditions, mais ces dernières années, on a considérablement amélioré cette chose-là, y compris que c'est souvent le seul moment où on voit les gamins, en particulier, au moins une fois l'an, et qu'on peut faire un certain nombre de dépistages qui ne sont plus faits à l'école. Et donc, sur cette affaire-là, le non-remboursement des actes de prévention liés à l'activité sportive, eh bien, on a vu se pointer la possibilité de nous dicter, un petit peu ce que devaient être nos contenus de consultation. Donc c'est un petit peu aussi un ballon d'essai que, qui a été un petit peu abandonné parce qu'il y a eu effectivement une levée de bouclier très rapidement. Et puis techniquement, c'est pas très facile à réaliser. Je pense que ce qui se passe dans une consultation médico-sportive ou médico-médicale n'est pas toujours si facile que ça à contrôler par la Sécu, enfin par les services de contrôle de la Sécu. Et donc c'est pas si réalisable que ça. Mais ça vous donne un petit peu l'idée de ce que peut être éventuellement la suppression d'un rôle de prévention de la médecine générale. Et la médecine générale a actuellement dans son activité, on considère à peu près un tiers de son activité consacrée au-delà du soin à des actes de prévention plutôt dans le domaine individuel. Mais quel serait l'impact des campagnes de prévention si l'ensemble de la médecine de base, la médecine de soins primaires, comme on l'appelle nous, était impliqué dans les grandes campagnes de dépistage? Il est prouvé partout, dans toutes les études, que c'est le meilleur échelon pour asseoir des campagnes de prévention et de dépistage. Or, une des critiques, effectivement, qu'on peut adresser au système actuel, c'est d'être trop tourné quelque part vers le simple remboursement de soins, justement parce qu'il intéresse probablement financièrement un certain nombre de groupes, qu'ils soient pharmaceutiques, qu'ils soient dans divers domaines, mais d'être beaucoup moins tourné vers la prévention. C'est tout notre système de sécu a été conçu quand même comme un système de remboursement de soins. La question de la prévention a été raccrochée par petites bribes au système de la sécurité sociale. Que ce soit la prévention des grossesses non désirées, que ce soit la prévention d'un certain nombre de dépistages, etc. Tout ça, ça n'atterra que ce soit les vaccinations même, puisque pendant longtemps, certaines vaccinations n'ont pas été remboursées. Elles restent non remboursées, d'ailleurs, pour un certain nombre de catégories de la population. Elles ne sont remboursables normalement que pour les enfants, et etc., etc. Donc, il faut avoir la notion que cette prévention, nous, on est partant parce que c'est notre raison d'être. C'est aussi ce qui fera de vraies économies ultérieurement, ce qui fera de vraies économies et des vrais gains de productivité au sens noble du terme. Et certainement que les gens qui sont intéressés à faire tourner la machine de soins ne voient pas ça obligatoirement d'un si bon œil que ça. Voilà, donc en définitive, pour nous, tout ça, on vient aussi aux informations, tout simplement. Nous avons réfléchi à un certain nombre d'éléments concernant d'autres formes que la forme de rémunération à l'acte. C'est vrai que tout ça est en débat, y compris au sein des médecins par eux-mêmes. C'est vrai que déjà, un certain nombre de formes de rémunération au forfait sont apparues, ne serait-ce que sur les forfaits de garde, ne serait-ce que sur les forfaits de suivi de l'option référent, par exemple. Et que tout ça, ce sont des éléments nouveaux, qui peuvent laisser penser que la rémunération à l'acte peut, si c'est quelque chose de repris par la population, devenir moins importante, de moins en moins importante, dans la forme d'exercice médical. C'est le souhait d'un certain nombre d'entre nous, certainement pas de tous, mais je pense que c'est des éléments nouveaux qui commencent à exister et qu'il faut, je pense, relayer. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est la question de la démographie médicale, parce que pour ma part, elle me semble tout à fait centrale. Elle sert de prétexte, un, à la réduction hospitalière. C'est parce qu'il n'y a plus les plateaux techniques médicaux qu'on veut réduire les hôpitaux. C'est deux, le prétexte à la réduction de la consultation, je dirais, de base en médecine générale. Quand on voit s'allonger ces carnets de rendez-vous, quand on voit un certain nombre de choses de genre, on a de moins en moins de temps pour consacrer du temps à chacun. Et ça, ça a été, pour moi, programmé. Je le pense. Tout le monde ne le pense pas obligatoirement, mais je pense que c'est quelque chose qui malheureusement était prévisible et qui, de longue date, même si ça partait d'un constat qu'il était nécessaire de gérer le nombre de médecins formés, il n'en reste pas moins que le maintien abusif depuis au moins une bonne dizaine d'années, en dessous des niveaux de la démographie médicale, me paraît être quelque chose de délibérément organisé. C'est un peu comme si on avait voulu endiguer le flot de la consommation, entre guillemets, en réduisant le nombre de robinets. Malheureusement, les robinets sont en train d'exploser, parce que le flot, il est le même, il s'amplifie même. Et donc, cette question du nombre de robinets est quelque chose d'essentiel, et cette question du numerus clausus à faire évoluer me paraît être un élément fondamental si demain, on ne veut pas se voir opposer, effectivement, pour un oui, pour un non, le fait qu'il n'y a pas assez de médecins, donc on est bien obligé de réduire, l'offre d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ce sont quelques contributions un peu en vrac. Je vous prie de m'en excuser, mais qui me viennent un peu comme ça.